France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, nous célébrons le plaisir de déguster des sandwichs du monde entier. Le sandwich dégusté à la pause de midi, lors d'un pique-nique, à la maison pour un dîner improvisé devant une bonne série. L'auteur culinaire Jean-Noël Escoffier partage ce matin sa passion pour le club sandwich anglais, le pambagna niçois, le sabich levantin ou encore le choripan argentin. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebi.
Chef du One Place à Rungis dans le Val-de-Marne. Grâce à vous, nous allons réaliser le pain de notre sandwich.
Oui, oui. Alors un sandwich qui est assez méconnu, en tout cas en France, qui s'appelle le panuozzo. Rien à voir avec un panini, rien à voir avec un sandwich chaud, c'est un sandwich avec du pain. Pizza.
Bonjour Violaine de Chanot.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef au Parisien Week-end. Quel sera votre plaisir littéraire ?
Eh bien, je vous parle aujourd'hui du combat d'une mère pour sauver son fils qui est omnubilé par les écrans. Le salut viendra par une plongée dans la forêt. Ce roman s'appelle Soleil invaincu. L'autrice Émilie Guillaumin et il est publié chez Grasset.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, c'est la saison des cerises, donc le temps des cerises. Question donc, l'espoir fait-il vraiment vivre ?
Bonjour Guillaume Todicino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, vous venez de vous enfiler l'un des sandwichs que Grégory Cohen nous a rapporté. Votre ami du vendredi a un lien avec notre sujet du jour.
Ah bah alors écoutez, on peut difficilement faire un lien plus proche, c'est-à-dire que mon ami c'est le sandwich.
Et vous venez de dévorer votre ami.
Oui, mais j'ai pas tout à fait fini, je reviens tout à l'heure.
Vous laisse, hein. Bonjour Sandra Colombo.
Bonjour Ali Rebi.
Comédienne et humoriste, quel est le menu de votre chronique Mauvaise Langue ?
Eh bien après avoir hésité entre décrire un homme sandwich et être prise en sandwich, vu que je ne suis pas un homme, prise en sandwich.
Oh, ça promet. Ah bah,
ça promet.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse.
Alors, Catherine, premier roman, du pain coupé,
ça à nos jeunes amis qui
coupé
sont là,
dans hein, la longueur, hein, comme ceci. On l'imprègne d'huile d'olive,
oui.
Mais alors imprégné largement.
Oh, j'ai vu.
Ensuite, on le frotte d'ail sur la partie inférieure. Avec de l'huile, on trempe les gousses d'ail dans l'huile et on frotte sur toute la longueur. Une fois que ça c'est fait, on coupe premièrement des oignons. Ensuite, on met
des olives.
Ensuite, on met des anchois. Ensuite, on met des tomates, des œufs durs.
Alors, on remet un peu d'huile après.
Et on remet un peu d'huile au dernier moment. Le tout bien tassé sur le pain, bien écrasé pour que le pain s'imprègne bien. Et puis ça y est, tout est fini.
Et alors maintenant, on n'est pas obligé de manger ça d'un seul coup, non ?
Ah, on peut commencer par un bout et finir par l'autre. Ça, de toute façon, je crois que... À part les avaleurs de sabre, vous savez, je crois que...
Le chef Raymond Oliver avec Catherine Langer dans l'émission Bon Appétit en 1966. Vous validez, Guillaume Todicino, vous qui êtes mini-soise ?
Oui, alors je valide cette version du pambagna. On peut rajouter deux, trois petites choses.
Tout à l'heure, ma chère Guillemette.
Voilà, mais je commence à valider.
Bonjour Jean-Noël Escoffier.
Bonjour Ali.
Vous venez de publier un livre que tout le monde veut me piquer au bureau. Sandwich, un tour du monde en 150 recettes, publié chez Flammarion avec des photographies de Rina Nura. Racontez-nous, Jean-Noël Escoffier, cette passion dévorante pour les sandwichs, au point de consacrer une petite encyclopédie du sandwich international.
Ben moi, j'ai une passion pour tout ce qui est cuisine populaire au sens large. Hein. Ça peut être la street food, ça peut être d'autres choses. J'avais déjà fait un volume sur les boulettes. Et les sandwichs, c'était un sujet qui était très intéressant au niveau à la fois des anecdotes et à la fois des recettes. On connaît tous les sandwichs. Les sandwichs sont répartis dans le monde entier. Et j'ai découvert, en écrivant ce livre, tout un tas d'histoires et de recettes de sandwichs étonnantes. Donc...
Alors un sandwich, c'est donc un mets constitué de deux tranches de pain entre lesquelles on place des aliments froids, nous rappelle le Robert. Une définition peut-être un peu courte, Jean-Noël Escoffier. Hein.
Je pense que c'est plus vaste que ça. Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qu'était un sandwich. Est-ce que ça peut être dans une galette, par exemple ? Est-ce que un kebab dans un pain ou un kebab dans une galette, c'est un sandwich ? Moi, je pense que oui. Donc, il y a plusieurs choses pour moi, dans un sandwich, c'est à la fois le pain ou la galette qui sert donc d'enveloppe de l'ensemble, une garniture qui peut être sucrée, salée. Il y a quelques sandwichs sucrés, il n'y en a pas tant que ça. Mais à la base, c'était beaucoup une tranche de protéines en fait, qui était utilisée dans le sandwich. Et puis, ça peut être chaud ou froid, voire les deux en même temps. Et surtout, ça peut...
Et également agrémenté de sauce ou de condiments.
Exactement, plutôt onctueuse. Et ça peut se manger en situation de mobilité. Mmh. Ça, c'est une partie essentielle pour moi du sandwich. L'autre chose...
C'est-à-dire que le sandwich peut se consommer en toutes circonstances, en dehors des lieux de prise de repas conventionnels. Hein.
Oui,
même et on peut même le consommer en pratiquant une activité autre qu'un repas.
Exactement, c'est le propre du sandwich. Et c'est pour ça que d'ailleurs le XXe siècle a vu beaucoup le développement du sandwich, parce qu'à mon avis, ça correspond aussi à l'évolution de la société, avec un repas qui... Il y avait une définition autour du sandwich qui était une contraction de repas, c'est un petit peu ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est pour moi, le sandwich est un assemblage de choses. C'est-à-dire que je me suis posé des questions, par exemple, sur les empanadas, ou argentines, qui sont aussi, elles sont enveloppées dans une sorte de chausson, mais en fait tout est cuit ensemble. Et pour moi, ça, c'est pas un sandwich. Un sandwich, c'est plutôt un assemblage de choses qui sont déjà préparées en amont, et tout n'est pas cuit ensemble.
Voilà. Grégory Cohen.
Oui, en fait, le sandwich, c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse les temps, qui s'est imposé effectivement sur la période industrielle où on devait amener son manger, son casse-croûte. Mmh. Donc, on cassait la croûte de pain. Et effectivement, on se retrouve avec des mix parce qu'on se rend compte que ce sandwich-là, il n'est pas que français, il n'est pas européen, il n'est pas américain, il est de partout, en Asie, au Vietnam, on a un sublime sandwich, on a aux États-Unis évidemment le pays des ouais. sandwichs par excellence, et c'est là où on découvre aussi le choc des pains. Où il n'y a plus un pain, mais il y a plein de pains différents qui nous permettent de jouer là-dessus. Et par exemple, le grilled cheese, c'est un
Rappelez
sandwich.
Ce que c'est.
Alors c'est un sandwich avec du fromage fondu au milieu. Donc on va mettre les deux tranches de pain et on va les cuire ensemble. On pourrait considérer que vu que c'est cuit ensemble, que du coup il n'y a pas d'assemblage qui serait fait, mais c'est un vrai sandwich. L'arias, qui est un petit sandwich aussi. Que j'ai goûté à Tel Aviv, dans deux pitas, avec de la viande hachée, travaillée, et qui ensuite est frit et après grillé. C'est absolument redoutable. Et donc c'est vrai que la frontière avec l'empanadas, elle est fine. Peut-être c'est parce que c'est complètement fermé, je dirais, que du coup c'est moins peut-être un sandwich.
Oui, mais il n'y a pas de lois certaines. Hein. Moi-même, il y a des exceptions. Par exemple, il y a un sandwich qui est la version de Porto, Portugal, du croque-monsieur, qui s'appelle la francesina, qui est servie dans une assiette, elle est nappée de sauce, etc. Mais on peut pas considérer que c'est pas un sandwich, parce que tous les autres attributs du sandwich sont présents.
Sandra Colombo.
Ah non, alors ça, moi, j'en ai mangé à Porto. J'ai tenté d'en manger. Je ne suis pas arrivée au bout. Et pourtant, par exemple, les grilled cheese...
Il faut pas prendre d'autres repas.
Oui, c'est ça, les grilled cheese avec plein de trucs qui fondent et tout ça. Puis en plus, parfois, il y a comme une sorte de petite couche de mayonnaise à l'intérieur. C'est hyper bon.
Guillemette.
Mais si on parle d'assemblage, alors en fait, le hamburger, c'est un sandwich.
Ah oui, c'est même le roi du sandwich.
Oui, c'est ça.
Ah ouais, c'est un grand sandwich.
En fait, le sandwich, ce serait peut-être l'objet dont les ingrédients peuvent tomber.
Peut-être.
Oui, oui, parce que le chausson, toutes ces choses où c'est, la pâte est fermée, effectivement, le sandwich, il faut qu'il y ait le risque que ça glisse.
C'est une très, très belle,
c'est pas mal.
C'est une très
c'est
belle
mal.
Définition, estampillée Guillemette Odyssey. On reviendra tout à l'heure sur l'histoire du sandwich. Est-il possible de lire et de manger un sandwich à la fois? Oui, mais au risque de salir les pages. Moi, cette idée-là, ça me rend fou. Il est l'heure du plaisir littéraire de Yolaine de Chano du Parisien Week-end. Alors, Yolaine de Chano, quel est votre plaisir littéraire? Quel est votre choix?
Eh bien, mon choix, il est allé à Soleil invaincu d'Émilie Guillaumin chez Grasset. Elle raconte l'histoire de Jeanne. C'est une juriste parisienne réputée qui gravite dans le monde, le milieu de la télé-réalité.
Un territoire... C'est un peu vous.
Moi, je gravite plutôt dans le monde de la réalité, en fait. Là, la télé-réalité, il n'y a pas de scrupules. Et finalement, elle a réussi un peu mollement à s'accommoder de toutes ces valeurs parfois douteuses. Elle a même, en fait, participé à leur déploiement, puisque son ex-mari n'est autre que le présentateur et producteur d'émissions que certains qualifieraient de télé-poubelle ou télé-trash. On a tous très vite en tête, quand on lit le livre, le miroir de cet homme présentateur de télé. Leur fils, Quentin, 13 ans, mène la vie des adolescents parisiens gâtés. Il est à l'aise avec les réseaux sociaux, encore plus à l'aise que les autres, étant donné le métier de ses parents. Mais voilà qu'un jour, le monde s'écroule pour Jeanne. D'abord, elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer foudroyant et incurable et qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. Ensuite, son fils est arrêté pour avoir filmé l'agression d'un homme dans le métro sans tenter d'appeler les secours. C'est-à-dire que son premier réflexe a été de le filmer. Et alors là, Jeanne s'écroule. Elle prend conscience qu'elle n'a rien transmis de tangible à son fils et que ce qu'il est en train de devenir la révulse totalement. Elle va donc prendre une décision soudaine et très radicale. Elle enlève son fils et elle l'emmène dans la forêt dans laquelle elle a grandi, auprès de son père à elle, qui était garde forestier. Cette forêt s'appelle Chêne de Cœur. C'est un immense domaine qui est un peu coupé du monde, au cœur de la France. Elle retrouve là ses savoirs enfouis. La mère va apprendre à son fils à reconnaître les traces des animaux, à marcher sans bruit dans les sentes, à s'imprégner de la nature en humant la terre et en frottant ses mains contre l'écorce des arbres. Elle va lui faire renifler les sous-bois pour repérer s'il est en danger ou en sécurité. Et on va avoir un Quentin qui va évidemment se cabrer. Et puis. En fait, ce roman, il convoque les émotions et les sens à travers cette euphorie qui remet tout à sa place. Il nous embarque dans une aventure qui est en fait pleine de rebondissements, qui est saupoudrée de poésie. C'est très lumineux, c'est plein d'espoir. Et au final, on s'interroge, est-ce que c'est la radicalité qui pourrait être la réponse aux maux de notre société ?
Et ça s'appelle « Le soleil invaincu » d'Émilie Guillaumin et c'est publié chez Grasset. Elle piaffe, comme Edith, à l'idée de nous présenter son ami du vendredi, Guillemette Odissino.
Toujours la même.
Chouette, tu es Harry Potter ?
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Oui, je la fais une fois par an, Guillemette.
Oui, le Edith piaffe, oui.
Donc...
Alors, cher ami, j'aurais pu évidemment choisir comme ami aujourd'hui ce lord anglais, Sir John Montagu, comte de Sandwich, qui a censément donné son nom à la divine préparation. Mais en vérité, c'est à son cuisinier que je devrais tresser des lauriers. Ce domestique auquel le lord demanda un repas simple, qu'il pouvait manger sans couteau ni fourchette, et sans quitter la table de jeu des yeux. Le problème, c'est que l'histoire, comme par hasard, n'a pas retenu le nom du cuisinier. Imaginez, aujourd'hui, à la boulangerie, on pourrait acheter un Ramsay au poulet ou un Williams mozza avocat. Alors, le sandwich, ouais, c'est la prononciation de ma fille quand elle était petite, excusez-moi. Alors, ouais, mais voilà. Le sandwich, Ali, c'est la vie. Et ne voyez pas là le simple emballement d'une fanatique des casse-croûtes. C'est vraiment la vie. Car une existence, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un début, première tranche de pain, une fin, l'autre tranche, et tout ce qu'on peut caser entre les deux. Naissance, mort, et au milieu, plein d'ingrédients, plus ou moins assortis, qu'on empile en croisant les doigts que rien ne manque, que rien ne tombe, que l'ensemble ne soit ni trop mou, ni trop sec, et surtout pas trop fade. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a toujours un moment d'angoisse, de mélancolie, quand on arrive au bout du sandwich. Cette dernière bouchée, où il reste pas grand-chose, hein, à peine du pain, un bout de salade, ce dernier coin un peu cramé du croque-monsieur, cette terminaison déjà froide du panini. Et souvent, on les laisse dans l'assiette ou dans l'emballage, car on refuse que ce soit la fin.
Le sandwich, c'est donc également la liberté.
Mais oui, Ali, la liberté, la mixité, le mélange, la couleur. Personne ne peut vous empêcher de mettre ce que vous voulez dans votre sandwich. Personne. Vous pouvez... Ouais. Oui, c'est beau, non ? C'est beau, quoi. Ouais, c'est beau.
On est d'accord.
Ouais. Vous pouvez faire mixte. Vous pouvez faire club. Américain, kebab, froid, chaud, toasté, avec beurre ou sans, avec mayo ou sans, ou baignant dans l'huile d'olive, comme mon pambagna chéri. Et le plus beau, c'est que le sandwich assume d'être exactement le contraire de son but premier et dicté par Sir John Montagu, c'est-à-dire extrêmement inconfortable à manger. Il brasse les cultures, il invite à toutes les fantaisies, des chips dedans pour faire croustiller, du ketchup avec du camembert si ça vous chante. C'est la préparation où personne ne vous juge vraiment, et même vous trouve original et courageux. Et si justement vous en restez au simple jambon beurre, vous passez soudain pour un stoïcien, qui préfère les choses qu'il peut contrôler, le jambon bien collé au pain grâce au beurre, plutôt que de s'aventurer vers l'incontrôlable tranche de tomate qui glisse ou la mayo qui coule. Puisque nous sommes dans la mayonnaise, restons-y. Attention, car elle incarne les risques d'une vie. Le nombre de fois où nous avons acheté un sandwich en boulangerie, un truc ou une mayo industrielle, trop blanche pour être honnête, était là pour cacher le vide, pour noyer la banalité de l'ensemble. Le sandwich, c'est la vie dans l'ampleur possible de ses déceptions, de ses mensonges. On vous a vendu un truc et vous ne réalisiez pas vraiment ce qu'il y avait dedans. C'est comme ce mec qui se fait passer pour un type fondant et qui n'est qu'un séducteur en plastique, exactement comme ces rectangles de poulet marinés au curry, tu parles, qui veulent se faire passer pour du filet. Alors, votre sandwich, comme votre vie, préparez-le vous-même. Frais, croustillant, et vous verrez que votre voisin de banc, de bureau ou de train vous regardera avec envie.
Alors, il y a eu le J'accuse d'Émile Zola, et il y aura désormais le manifeste du sandwich de Guillemette Audicino. Votre regard, Jean-Noël Escoffier ?
Non, non, tout est vrai. Je souscris complètement, en fait. Un sandwich, ça peut être... Alors, moi, mon livre, j'ai écrit sur les sandwichs, on va dire, classiques. Mais même dans les sandwichs classiques, il y a des trucs improbables.
Il y a des folies.
Il y a un sandwich qui s'appelle le Elena Rouge, qui a été créé à Cuba par une sorte de socialite... cubaine des années du début du XXe siècle. Et en fait, sa formule, c'est du pain, une sorte de cream cheese, de la dinde et de la confiture de fraises. Oh. Et en fait, elle demandait ça tout le temps dans un restaurant. Et au bout d'un moment, en fait, ça l'énervait qu'ils ne se souviennent pas de la recette. Et donc, ils l'ont mis à la carte. Et voilà. Et c'est devenu un sandwich un peu emblématique de Cuba, et notamment la communauté cubaine, lorsqu'elle a quitté Cuba pour la Floride en grande partie. On retrouve ce sandwich dans plein de restaurants cubains, alors que bon, c'est pas terrible, terrible.
Redonnez le nom de ce sandwich.
Le Elena Rouge, ça porte son nom en fait.
Merci beaucoup Guillemette Audicino. Dans un instant, on continue à célébrer les sandwichs du monde entier. Ce sera juste après avoir écouté Les Cure, In Between Days, une chanson sortie en 1985. Cure, interprété In Between Days.
Grand bien vous fasse.
Ben, je lève ton sandwich.
Oh, non, non, j'aime pas ça.
Bon, te demande pas d'aimer, te demande de le manger.
T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Moment de faire des sandwichs.
C'est du boudin.
Eh ben, c'est du boudin. Là, tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu ?
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse week-end, nous célébrons le plaisir des sandwichs du monde entier avec l'auteur culinaire Jean-Noël Escoffier qui publie chez Flammarion Sandwich, un tour du monde en 150 sandwichs. Alors, on se disait, Jean-Noël Escoffier, pendant le disque, et bien que récemment, j'ai préparé une focaccia maison, bien épaisse, et qu'à l'intérieur, j'y avais mis du pesto, de la mortadelle, de la burrata, de la roquette, une réduction de vinaigre balsamique et de la très bonne huile d'olive, et que j'avais ressenti, il faut le dire, une sorte d'orgasme gustatif. Souvent, ça fait ça quand on mange un sandwich. La Guimette, depuis tout à l'heure, elle est en train d'enfiler son deuxième sandwich à base de pâte à pizza. Comment ça s'explique, ce lien sensoriel, je dirais pas érotique, quand même, faut pas aller aussi loin, avec le sandwich?
Je pense que, ouais, justement, il y a un vrai plaisir sensoriel du sandwich dans le sens où il y a une multitude d'ingrédients à l'intérieur qu'on va trouver et avec des textures très différentes. Il y a l'onctuosité d'une sauce, il y a le croquant du pain, etc. Il y a aussi un équilibre des saveurs qui fait que, ouais, généralement, c'est très plaisant. Il y a aussi, je pense, un côté émotionnel dans le sandwich. Enfin, déjà, on est content d'en avoir préparé un comme ça et d'avoir assemblé tout ça. Mais en plus, je pense qu'il peut être évocateur de... Enfin, moi, je suis allé en Grèce, j'ai mangé des gyros, etc. Quand je mange un grec sur Paris, et ça me rappelle forcément ces sandwichs-là. Et donc, voilà, il y a ce côté à la fois plaisir sensoriel, plaisir émotionnel, plaisir pratique aussi de pouvoir le préparer sans être un cuisinier expert...
Sandra Colombo.
Il y a aussi, je pense, quelque chose de l'ordre d'être différé dans son plaisir. C'est-à-dire, le premier plaisir, c'est de se dire « Ah, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sandwich ?» Et là, on le fait et tout ça. Puis après, on se dit « Ah là là, vivement midi que je mange ce sandwich !» Et ça, ça marche très bien. Par exemple, moi, quand je pars en tournée avec mon spectacle, souvent, je me fais des sandwichs parce que, bon, voilà. Et j'adore ça. Je me dis « Ah, quelle heure il est ? Midi et demi. Je pense que c'est l'heure de manger. »
Et dans le train, on mange tous nos sandwichs à 10h12.
Oui, c'est ça.
Et je suis d'accord avec vous, parce que le fait de préparer son pain, sa focaccia en plus, oui. Vous imaginez la montée du désir avant de déguster ce sandwich.
Il faut la focaccia, c'est
Avec
cette huile d'olive.
Exactement. Grégory Cohen.
Il y a aussi ce côté hyper régressif où je mange avec mes mains.
Ouais.
J'enlève tous les codes presque de la bienséance. Je mange avec mes mains, je porte à ma bouche, je croque dedans, c'est presque primal. Ouais. Et du coup, j'ai ce côté vraiment animal, purement, mais purement sur l'émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est un plaisir absolu.
Yolaine de Chano.
Eh ben, il m'a enlevé les mots de la bouche. Oui, on mange avec les mains, on doit sucer les doigts, on attrape parfois un morceau de tomate ou de salade séparément. Et on est très libre, en fait, face à son sandwich.
Et puis, c'est un truc d'enfant aussi, le sandwich. On mangeait des sandwichs quand on était petit, on faisait des petits sandwichs
en
colo ou quand quand on allait, je sais pas, ou pour le goûter des fois et tout ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup ça dans ce plaisir de la régression, quoi.
Vous aviez des sandwichs au pain pour le goûter ?
Des sandwichs au pain avec un petit peu de pain au milieu. Ouais, tout à fait, ouais.
Y mettre.
Non, puis il faut quand même répéter le côté accumulation. Pardon, mais mettre au même endroit, dans le même réceptacle, tout ce qu'on aime et bien tassé et tout manger en même temps. Non mais franchement, mais c'est extraordinaire. Ce côté réunion de saveurs, c'est extraordinaire.
Le regard du philosophe ?
Non, c'est très juste ce que dit Guimette sur ce côté accumuler les ingrédients qu'on aime. Il y a une dimension en fait de liberté. On peut composer en fait son sandwich. Et il y a quelque chose aussi, c'est que souvent le sandwich, on le mange en voyageant, parce qu'on est en dehors, etc. Et donc, ça prolonge aussi le plaisir de manger le sandwich, je crois. C'est que, effectivement, on n'est pas à table dans un univers normé, conformé, avec les us et habitudes des arts de la table, du repas, quoi. Donc, voilà, il y a plein de dimensions de transgression de l'ordinaire dans le sandwich qui sont assez savoureuses.
C'est punk.
Jean-Noël Escoffier, rappelez-nous tout de même l'histoire du sandwich. Une légende veut que le sandwich remonte au XVIIIe siècle. Guimette en a parlé dans sa chronique tout à l'heure. On doit le sandwich au quatrième conte de sandwich. sandwich, John Montagu, un grand joueur de poker au XVIIIe siècle. Et pour ne pas quitter la table, il aurait demandé à un domestique de lui préparer une tranche de viande entre deux morceaux de pain. Le sandwich serait donc né dans la haute société britannique et donc plutôt consommé par l'élite au départ. C'est vrai ou c'est mythologique cette histoire ?
Alors, cette histoire de John Montagu, effectivement, qui demande un sandwich, a priori, c'est vrai. Mais il existait des sandwichs avant, sauf qu'on ne les appelait pas sandwich, puisqu'on a attendu que ce John Montagu était le comte de sandwich, enfin Earl of Sandwich. Et donc, ça s'est appelé comme ça, parce qu'apparemment, c'était loin d'être seulement un joueur de poker. Hein. C'était quelqu'un qui était un éminent aristocrate anglais. Il a été ministre de la Marine, enfin, il a eu des très gros postes. Et en fait, quand il a commencé à demander ce genre de mets, il y a d'autres personnes qui fréquentaient, d'autres aristocrates qui fréquentaient son club, qui ont dit « moi j'aimerais la même chose que sandwich » et c'est devenu « moi j'aimerais un sandwich », quoi. D'après ce qu'on a dit.
Mais il a des îles aussi à son nom.
Et oui, Cook en fait avait, Cook avait baptisé des îles à son nom. Mais en fait, visiblement, c'était un personnage qui était un peu ambigu et il y a des personnes qui ont voulu dire c'était pas à sa table de jeu, il travaillait très tard le soir et c'est quelqu'un qui lui a envoyé ça. Et puis il y en a d'autres qui disaient en fait il a jamais rien fait de sa vie et voilà, c'est quelqu'un qui garde son nom dans l'histoire, mais pour avoir pas fait grand-chose, puisqu'il a même pas créé lui-même le sandwich.
Alors, Jean-Noël Escoffier, si le sandwich moderne, hein, né en Angleterre au XVIIIe siècle, il acquiert ses lettres de noblesse outre-Atlantique aux États-Unis, parce que le sandwich, c'est l'un des piliers de l'alimentation quotidienne américaine. Il existe même un National Sandwich Day, une journée nationale du sandwich, célébrée chaque 3 novembre.
Oui, en fait, ils ont un peu des journées nationales pour tout, donc il y a plein de sandwichs qui ont eux-mêmes leur fête nationale. Mais c'est vrai que c'est aux États-Unis qu'il acquiert vraiment ses lettres de noblesse. Le hot dog, l'hamburger, le sandwich club, etc. sont...
Le sandwich au pastrami, les bagels...
Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis doivent beaucoup aux migrants, en fait, d'avoir inventé les sandwichs, parce que la plupart des sandwichs, des grands classiques américains, sont issus, pour la plupart du temps, soit d'Européens, donc Italiens, beaucoup, qui ont inventé des sandwichs mémorables, Allemands et Juifs ashkénazes, et puis également, il y a des Polonais, il y a même un Français qui a créé un sandwich qui s'appelle le French Dip, qui est un sandwich qu'on peut retrouver à Los Angeles, notamment.
Grégory Cohen.
Oui, quand on est à New York et qu'on va se balader, on se rend compte qu'effectivement, il y a des sandwichs absolument dingues. Il y a le Ruben, qui est un sandwich au pastrami lié à l'immigration juive de Russie, principalement. Chez les Italiens, il y a le fameux sandwich à la mortadelle, qui est absolument dinguissime à manger, avec un pain qui est un peu mou, qui est complètement fou. Et on se retrouve vraiment avec ces immigrations successives. Ouais. C'était c'est pas cher, un sandwich.
Mais c'est ça. Hein.
Voilà. Et c'est pas cher, ça bourre, c'est facile à manger. Donc c'est idéalement les différentes populations issues de l'immigration qui ont peu de moyens et qui veulent en même temps se rattacher à ce qu'ils connaissent. Moi, ce qui est marrant, c'est quand on va dans un pays étranger, je me rappelle quand je suis allé en Allemagne, à Hambourg, j'étais un peu perdu, et je vois marqué « sandwich camembert ». Et donc je me dis « génial, je vais manger un sandwich camembert ». Et en réalité, c'était un sandwich au camembert chaud, avec de la confiture de groseille dedans. C'était un cauchemar absolu.
Pardon. Un mot sur la recette du Club Sandwich, l'un des grands classiques américains. Jean-Noël Escoffier, comment vous le réalisez, vous, votre club sandwich ?
Alors, le club sandwich, il y a plusieurs attributs. En fait, il est constitué de bacon, enfin de lard grillé, de laitue, de tomates et de volaille, et ensuite nappé d'une mayonnaise. Et il a été créé dans des clubs new-yorkais. Il y a deux clubs qui se font un petit peu la guerre. Il y en a un qui est dans l'État de New York, près d'une station thermale qui s'appelle Sarasota Springs, qui revendique la création du club sandwich. Il y en a un autre à New York, dans le centre de New York, en fait, qui revendique ça. Au début, c'était pas forcément de la mayonnaise, c'était plutôt du beurre qu'ils mettaient. Et en fait, le sandwich a dans les années 40, il a été créé à la fin du 19e, et dans les années 40, il y a eu un deuxième étage qui a été créé, ce qui crée un peu cette majesté autour du Sandwich Club. C'est quelque chose qu'on peut commander à n'importe quelle heure dans tous les palaces du monde, à tel point qu'il y a un index du Sandwich Club qui donne les prix des différents clubs dans les différentes villes du monde, qui permet de voir à peu près quel est le coût de la nourriture localement.
Alors, pour 4 sandwichs, il faut 12 tranches de pain de mie, de la mayonnaise, évidemment, maison si possible, 20 fines tranches de lard, 2 blancs de poulet, une noix de beurre et une cuillère à soupe d'huile neutre, 2 belles tomates rondes, et puis également 8 feuilles de laitue, du sel et du poivre.
C'est voilà. Ça, très simple.
Voilà. Grégory Cohen.
Ça, c'est vraiment le marqueur dans tous les hôtels, en fait. Moi, chaque fois que j'ai fait du consulting dans des hôtels, on est obligé pour le room service, principalement pour le service d'étage,
exactement,
de faire son club sandwich, qui est le marqueur absolu. Donc, chaque fois que je voyage, je commande un club sandwich. Il y a un autre sandwich qui ressemble un petit peu à ça, c'est le BLT. Ouais. Le BLT. C'est le bacon, lettuce, tomato, qui est plus simple un peu à réaliser, ouais, qui ressemble au club sandwich, qui est un...
Donc il y a de la laitue, de la tomate et...
Laitue, bacon, d'accord, tomate, c'est un must aux États-Unis aussi.
Guillemette.
Mais comme indicateur aussi, je reviens au fait que le poulet, c'est pas possible, hein. Il faut arrêter de mettre ces espèces de tranches industrielles de poulet. Non mais, enfin, même dans les hôtels ou les restaurants très corrects, maintenant quand vous commandez un club sandwich, c'est quasiment plus du vrai poulet, enfin, c'est ces tranches qui font toutes absolument 12 cm, qui ont toutes la même taille, le même truc, etc. Ça sort, j'imagine, de sachets près. Il n'y a plus de filet de poulet. Je pense bien que c'est une question de revenus
coût, évidemment,
du sandwich, mais ça change tout.
Mais c'est vrai que quand on a réalisé un poulet le dimanche, midi, on utilise les restes du poulet, on les assaisonne,
ouais,
et on fait un très bon club sandwich. Alors, Jean-Noël Escoffier, grâce à votre livre, on voyage partout dans le monde, sur tous les continents, c'est absolument merveilleux, il y a 150 recettes. Un mot sur les tacos et les burritos en vogue partout dans le monde. Je ne parle pas du tacos lyonnais ou grenoblois, parce qu'il y a une guerre entre ces deux sandwichs, ouais, fourre-tout. Là, on va s'intéresser à ces deux sandwichs mexicains à base de farine de maïs. Le taco, c'est le burritos. Ça devient très populaire au Mexique au début du XXe siècle, avant de s'exporter aux États-Unis au milieu du XXe siècle et partout dans le monde à partir des années 1980.
Oui, c'est vrai que c'est souvent assimilé à la nourriture Tex-Mex. Le taco, c'est vraiment emblématique du Mexique. Y a un autre sandwich au Mexique qui s'appelle la torta, en fait, qui ressemble plus à un sandwich classique avec du vrai pain. Mais voilà, ces crêpes de maïs, elles existent depuis la nuit des temps dans la culture mexicaine. Mais en fait, le burrito est un peu plus américain. Il a été surtout fait pour justement nourrir... Enfin, les Mexicains qui émigraient pour travailler dans des champs aux États-Unis, etc., ou dont ont préparé beaucoup des burritos, et c'est plutôt côté nord du Mexique et Californie. Quoi.
L'un de vos sandwichs préférés, c'est le choripan, un sandwich argentin. Quelle est la recette de ce choripan ?
C'est hyper simple, en fait. C'est aussi ce qui caractérise la plupart des sandwichs. Hein. Donc c'est un des plats préférés des Argentins. Et en fait, c'est du pain avec du chorizo qui est grillé souvent au barbecue avec avec d'autres viandes généralement lorsqu'ils préparent l'asado, qui est un grand plat. Et en fait, c'est nappé de sauce chimichurri. Donc, il y a ce côté très gras du chorizo. Et la sauce chimichurri, c'est un mélange d'herbes, d'ail, de citron, enfin de vinaigre, qui donne un côté très frais à tout ça. Et donc, le contraste entre le gras du chorizo et la fraîcheur de la sauce chimichurri, c'est vraiment un délice. C'est un sandwich d'été par excellence.
Le choripan. Alors en Europe, évidemment, on retrouve une grande diversité de sandwichs. En France, un sandwich très populaire, on l'a entendu au début de l'émission, c'est le pan bagnat, originaire du Pays niçois. Quelle est la recette du pan bagnat, vrai pan bagnat, et sous le contrôle de notre mini-soise,
Mathodistino.
Bah oui, elle est mi-alsacienne, mini-soise.
C'est vrai, ouais.
Donc le pan bagnat, c'est surtout du pain au levain, des pains ronds qui font à peu près entre 15 et 20 cm. On les coupe en deux et ensuite on va humecter la mie de pain avec tout ce qui peut être tomate, l'huile d'olive, on peut frotter d'ail également. Et puis ensuite on va rajouter des œufs cuits, des cébettes, des poivrons verts, des radis. On peut rajouter aussi des artichauts violets quand il y en a en saison. Il y a des feuilles de basilic. Il y a des févettes aussi qu'on peut rajouter. Et on va mettre des miettes de thon ou éventuellement des filets d'anchois. Au début, c'était surtout des filets d'anchois parce que le pan bagna, c'était le sandwich que prenaient les pêcheurs qui partaient et ils se nourrissaient de ça sur leur bateau. Et du coup, le thon coûtait plus cher et ils mettaient plutôt... des filets d'anchois.
Ensuite, il y a les olives de Nice, évidemment.
Bah bien sûr, évidemment.
Mais évidemment. C'est les toutes petites olives noires qui ont vraiment un goût très particulier. Si vous mettez des grosses olives grecques à l'intérieur, c'est foutu. Hein. Moi, je vous le dis.
D'accord. Donc, non, mais c'est important. Non, plutôt mettre des petites olives de Nice, si on en trouve, évidemment, plutôt que des grosses olives Kalamata, par exemple.
Oui. Exactement.
Et là, c'est réussi.
Et là, c'est réussi. Et les petites cébettes, c'est mieux que les petits oignons. En fait, c'est aussi bizarrement, on l'a pas dit, mais il y a de temps en temps, le sandwich, c'est un plat de saison.
Ah oui.
Qui n'est pas forcément faisable à d'autres moments. Et c'est vrai que le pan bagna, c'est particulièrement un sandwich d'été, parce qu'à l'intérieur, il y a effectivement plus ou moins tous les ingrédients de la salade niçoise, qui sont souvent des ingrédients très frais. C'est-à-dire les petits artichauts violets très frais, les petites fèves qui sont vraiment fraîches à ce moment-là sur le marché, etc. C'est pas si fréquent, mais il y en a certains des sandwichs qu'on ne peut pas faire tout le temps.
Oui, c'est clair que pour moi, le pan bagna, ça évoque les vacances sur la Côte d'Azur. Mais j'ai vu qu'il y avait une tentative de mettre un label sur ce pan bagna, parce que on le trouve parfois de piètre qualité chez plein de vendeurs. Il y en a qui mettent de la mayonnaise à place de l'huile d'olive, ce qui est un peu comme de mettre de la crème dans les carbonara.
Alors, Grégory Cohen, vous nous proposez, vous, une recette de pain à pizza pour réaliser nos sandwichs.
Ah bah oui. Donc, le panozzo, donc c'est un sandwich, mais c'est un sandwich qui est fait avec une pâte à pizza. Il va être ovale.
C'est le sandwich que vous nous avez apporté, que Guimette, elle en est à son troisième, c'est ça?
Deux et demi.
Et demi, trois et demi.
Donc, en tout cas, c'est très gourmand.
Redonnez le nom.
Le panozzo, sandwich à pizza. Alors, j'ai simplifié au maximum cette recette pour qu'elle soit réalisable rapidement et par tout le monde. Donc, il faut 250 g de farine. Alors, normalement, c'est de la double zéro. Si on ne la trouve pas, on prend de la 45, classique. 160 ml d'eau tiède. Une cuillère à café de sel, 5 g de levure boulangère fraîche. Si on n'en trouve pas, on prend 2 g de levure sèche. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça, c'est juste pour le pain, pour la pâte. Donc, c'est en gros de l'eau et de la farine. Ensuite, pour les ingrédients de la garniture, ça, c'est votre imagination. Vous faites ce que vous voulez. Là, Guillemette, je crois, a mangé un avec une sauce pesto, de la roquette, de la tomate, de la mozzarella di bufala et... aussi du Parme, du jambon de Parme. Pour préparer la pâte, il faut mélanger la levure avec l'eau tiède, ça permet d'activer la levure. Mm-hmm. On va la laisser reposer à peu près 5 minutes. Puis dans un saladier, on va verser la farine, le sel, l'huile, puis l'eau avec la levure. On va pétrir entre 8 à 10 minutes avec les mains. Au début, ça va être collant, puis après ça va devenir pâteux, puis après ça va devenir une boule, et ça ne collera plus aux doigts. On se met quand même un petit peu à côté, un peu de farine pour pouvoir mettre sur ses doigts, ou alors un peu d'huile d'olive pour pouvoir la travailler facilement. Une fois qu'on a notre pâte lisse et qu'on a fait notre petite boule, on la couvre d'un linge propre, idéalement, et on la laisse lever 1h30 à 2h dans un endroit tiède, ce qui ne devrait pas être trop difficile vu qu'il fait quand même pas mal chaud en ce moment. Ensuite, on va former les pains. On divise la pâte en deux. On va la tirer de manière à avoir une forme ovale. On va la poser ensuite dans son four. Le four, on l'aura préchauffé à 250 degrés. Idéalement, on a...
Chaleur statique.
Chaleur statique. Idéalement, je conseille, si vous pouvez, de vous faire offrir ou d'acheter une pierre à pizza que vous allez mettre dans votre four, et ça va changer tout parce qu'on va avoir la chaleur statique, mais on va avoir ce qu'on appelle l'effet sol, c'est-à-dire la chaleur qui va venir de la pierre et donc qui va chauffer par en dessous de façon homogène. Ça, c'est génial, ça change tout, ça marche pour tout. Ensuite, on met évidemment notre pizza, nos deux morceaux de pizza dedans, on cuit à blanc, c'est-à-dire sans rien, pendant 8 à 10 minutes, c'est tout. Les pains vont gonfler, ils vont être légèrement dorés, on les retire. Pendant ce temps-là, on a préparé nos ingrédients, on coupe en deux et on garnit par le dessus et on le mange chaud, frais, juteux, enfin tout ce qu'on aime, quoi, Guimette.
Et on peut retrouver votre recette, Grégory Cohen, sur votre compte Instagram. Grégory Cohen off, off avec...
Deux F.
Allez, il est l'heure de retrouver les nourritures spirituelles assez terrestres, tout de même, cette semaine avec Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors, Thibaut de Saint-Maurice, en pleine saison des cerises, vous vous demandez si l'espoir fait vraiment vivre.
Oui, Ali, parce que quand vient le temps des cerises, impossible évidemment de ne pas penser au temps des cerises. Cette chanson écrite en 1866 et qui devint 5 ans plus tard un hymne de la Commune et par la suite une chanson associée à toutes les mobilisations progressistes. Le temps des cerises, c'est le temps de la fin du printemps et de la promesse de l'été. C'est le temps où il est permis de tout espérer et de tout oser. C'est l'espoir chanté de lendemain qui chanteront aussi les joies d'un monde meilleur. Et pourtant, comme la cerise qui est à la fois douce et acidulée, le temps des cerises est une chanson traversée par une lucidité pleine de mélancolie. Parce que, je cite, il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. La brièveté de la saison des cerises rappelle immédiatement que les joies sont passagères, que l'insouciance n'a qu'un temps et que l'espoir ne suffit pas. Et pourtant, une nouvelle fois, le temps des cerises reviendra au printemps prochain et nous pourrons de nouveau nous régaler de clafoutis ou de baisers, de promenades ou de barricades. Cette saison des cerises est donc la période idéale pour se demander ce qu'il nous est permis d'espérer.
Et donc, Thibaut, l'espoir fait vraiment vivre, comme le laisse penser le proverbe.
Oui, c'est toute la question, parce que effectivement, l'espoir signale d'abord en chacun et chacune de nous une attente et un désir, le désir que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, et c'est apparemment le plus puissant des moteurs, capable d'entraîner les uns et les autres, seuls ou collectivement, à se mobiliser et à agir pour changer sa vie, se révolter ou porter secours. En ce sens, l'espoir ferait vivre parce qu'il donne vie à l'avenir tout en donnant de l'avenir à la vie. Il serait ainsi la marque de celles et ceux qui y croient, qui ne lâchent rien et dont la résolution change le monde. Mais à trop espérer, ne prend-on pas le risque d'en oublier de vivre ici et maintenant ? Que fait-on aujourd'hui quand on est tout entier tourné vers de beaux lendemains ? Et enfin, comment être heureux donc au présent quand on conditionne son bonheur au futur ? Il y a un revers de l'espoir. Il nous détourne du réel présent de notre existence pour nous porter vers la croyance que le futur peut être meilleur. Mais le monde futur, au mieux, est incertain et au pire, ne sera que la continuité du monde présent, c'est-à-dire imparfait et contradictoire. À l'absurdité de la vie, le remède n'est pas l'espoir, mais le désespoir, comme le pense Albert Camus. Mais alors attention, pas un désespoir triste ou suicidaire, mais un désespoir joyeux. Comme celui auquel nous invite par exemple la philosophie d'Épicure, il nous faut apprendre à désespérer, au sens où il nous faut apprendre à ne pas se bercer d'illusions et à se libérer de la croyance que cela ira mieux demain. Et toute la sagesse de ce désespoir, c'est qu'il est joyeux, donc pourquoi ? Parce qu'il nous ramène au présent. En nous libérant de l'attente et du désir du futur, il nous libère du temps, de l'attention et de l'énergie pour accueillir ce qui arrive, et donc par exemple cueillir les cerises qui sont là, mûres et gourmandes, prêtes à nous régaler. Si le temps des cerises est si court, alors il faut en profiter pleinement, au lieu de regretter qu'il s'achève ou de désirer déjà qu'il revienne. Ce n'est pas l'espoir qui fait vivre, mais c'est tout simplement la vie qui fait vivre. Voilà, la vie effectivement vécue, les décisions prises aujourd'hui, les actions que l'on fait là, ici et maintenant. Alors être heureux, ce n'est pas être heureux à condition que se réalise ce que j'espère, mais comme le pense et le dit le philosophe Clément Rosset dans une jolie formule, c'est d'être heureux malgré tout. Et aujourd'hui, le bonheur a donc un goût de cerise, malgré tout et malgré toutes les tristesses de nos vies et du monde.
Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice. Dans un instant, la chronique Mauvaise langue de Sandra Colombo. En attendant, on écoute Vanessa Paradis, Bouquet final.
Tu peux leur faire dire tout.
Final, interprété par Vanessa Paradis.
Bon bah, elle est gentille si on veut, mais...
France Inter.
Malgré tout, elle manque un petit peu de fantaisie. Hein.
C'est cela, oui, oui.
Grand bien vous fasse.
Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
La mauvaise langue de Sandra Colombo.
Alors, je veux pas être mauvaise langue, Ali, mais là... Préparez-vous à de la chronique Yumi. Alors ça veut dire miam miam, hein, si vous ne parlez pas l'Instagram couramment. Car aujourd'hui, pour cette émission spéciale sandwich, j'ai décidé de m'en payer une bonne tranche au travers de l'expression « être pris ou prise en sandwich ». Alors, je ne parle pas de faire la garniture aux soirées des chandelles, hein, bien sûr, mais de cette sensation d'être coincé entre deux injonctions contradictoires qui veulent, soi-disant, notre bien, mais font bugger notre cerveau. Alors, je vais passer sur les classiques « faut être mince, mais manger »,« faut avoir de l'ambition, mais pas se la raconter »,« vieillir, c'est ok, mais faut rester fraîche, hein, et pas faire de chirurgie, parce que bon, faut s'accepter comme on est, mais là, va te cacher, t'as trop de rides ». Bref, vous voyez le genre. Féminin, d'ailleurs, souvent. Même si, en même temps, les hommes sont de moins en moins épargnés. Les injonctions sont partout, tout le temps. En même temps, c'est normal, ça rapporte du pognon, déjà. Bah, par exemple, le réseau social Biril, qui consiste à montrer sa soi-disant vraie vie à ses amis. Alors, quand l'appli vous sonne, vous avez 2 minutes pour poster une photo de ce que vous faites, pour de vrai, sans tricher, sans préparation, sans filtre. Si vous voyez des personnes reprendre 25 fois une pause et stresser de plus en plus parce que ça va pas et qu'ils ont que 2 minutes, eh bien sachez qu'ils sont en train de vivre leur meilleur moment biril. Bon, vu que l'appli est en perte de vitesse, hein, ça fonctionne pas ouf, car certes on veut du vrai, mais du vrai qui fasse rêver, hein, parce que sinon si c'est pour voir des gens normaux faire des trucs normaux, à quoi ça sert? Mais bon, faut pas non plus trop que ça se voit que c'est faux, hein, parce que sinon, vas-y, à quoi ça sert? Donc Biril a donc décidé finalement que les utilisateurs pourront choisir quand et comment prendre leurs photos. Et en même temps, ça n'a pas empêché Biril d'être racheté l'an dernier pour 500 millions d'euros. Mais être prise en sandwich entre tout et son contraire, ça ramène aussi du public. Par exemple dans les jeux télé. Quand les candidats sont éliminés, ils font genre « Oh, ça va, c'est qu'un jeu !» Mais enfin, alors que dans tous les épisodes précédents, ils sont filmés en gros plan, en train de tout donner, de transpirer à grosses gouttes, ils repoussent leurs limites, ils sont à fond, ils courent partout, mais ils doivent quand même trouver un bout de cerveau disponible pour parler de leurs émotions intenses face caméra, parce que c'est beau, les émotions de la gagne. Et alors qu'ils étaient prêts à se mettre en mode Xavier Dupont de Ligonnès et à enterrer tous les candidats pour gagner, quand ils sont éliminés, finalement... Ça va, c'est qu'un jeu. Ah bah oui, parce que les émotions des perdants, c'est moche. Si ça, c'est pas une belle injonction contradictoire, qui ressemble d'ailleurs à la tempête émotionnelle que je traverse là tout de suite, parce que c'est la fin de la saison, ce qui me rend d'une tristesse infinie. Je suis nulle pour les trucs qui se finissent. Bon, si j'étais Thibaut de Saint-Maurice, je me ferais d'humeur oxymorique. Oh, vous savez, la vie n'est-elle pas une éternelle fin ?
C'est mais tellement
comme,
lui.
Bah bien sûr. Mais comme je suis plutôt dans la team Guillemette Odissino, car quand même, je vous le rappelle, je suis passée à ça d'avoir une palme d'or, je vais faire comme au cinéma.
dernier film de Dominique Moll présenté au Festival de Cannes.
Au Festival de Cannes pour lequel j'ai monté les marches. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les photos magnifiques sur mon Instagram. Je voudrais remercier tous les gens grâce à qui cette année dingue a été possible. Ça a été une immense joie et un grand honneur de me glisser tel un petit pickles dans le beau sandwich grand bien vous fasse. J'ai aimé si fort travailler avec vous, retrouver cette joyeuse bande tous les 15 jours que là, tout de suite, j'ai l'impression d'être un vieux sandwich triangle abandonné sur une aire d'autoroute. Alors merci Ali pour tous ces moments dont j'ai chéri chaque instant. Ah, merci à ceux qui m'ont écouté, podcasté, suivi dans mes chroniques. J'ai eu l'impression d'être dans un paquet de chips géant pendant toute cette année. Et c'était beaucoup, beaucoup de joie. Je vous embrasse fort et je vais moucher.
Merci beaucoup Sandra Colombo de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Et vous restez évidemment dans la famille Grand Bien Vous Fasse. On vous retrouve tiens, en septembre dans notre tout premier club de lecture qui font du bien. On vous retrouve. C'est justement pour ça qu'on vous a pris. Et on vous retrouve mardi à 21h15 au Point Virgule avec votre spectacle Que faire des cons. On vous applaudira également au Festival d'Avignon. Et cet automne, on vous découvrira évidemment dans le tout nouveau film de Dominique Moll qui s'appelle
Dossier 137.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Weekend. Merci aux amis du vendredi, Thibaut, Yolène, Grégory, Sandra et Guimette, qui a bien profité de sa matinée avec ses 4 sandwichs. Manque plus le café ?
Oui, s'il vous plaît, allez-vous
et le digestif. Merci Jean-Noël Escoffier. Sandwich, un tour du monde en 150 recettes. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Jean-Noël Escoffier. À la fin du livre, il y a des recettes de pain et de sauce. C'est absolument formidable. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Cyrine Ben-Younes, Nathalie Romero et Lucie Grandet-Lavigne avec l'aide d'Antoine Poitras à la réalisation, Claire Destacan à la programmation musicale, Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Lundi, c'est une émission pour vous, Guimette, pour écluser tous les sandwichs que vous avez mangés. Vous allez courir. Si vous avez envie de vous remettre à courir, ou de vous mettre à courir tout court, écoutez l'émission de lundi.